Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut.
Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc attention, nouveau podcast, nouveau Comics Weekly. C'est le 312 et donc aujourd'hui on va vous parler chez DC de Doom Patrol qui commence, de Suicide Squad, de Wonder Woman, d'All-Star Batman. En indé, on va vous parler de la série de Jonathan Hickman, Black Monday Murders. On va faire exceptionnellement une review d'un TP puisque Flo va vous parler de The Fix. Chez Marvel, enfin, une petite section avec quelques titres tie-in à Civil War 2, comme A-Force, Spider-Man et Uncanny Avengers. Voilà, je suis Bruno, et bienvenue pour le Comics Weekly 312. Voilà, et donc je l'ai dit au début d'émission, c'est Flo qui m'accompagne aujourd'hui.
Oui, bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, donc on est tous les deux ce soir pour vous faire les reviews VO de la semaine, notre petite sélection. Donc émission 100% bordelaise, ça va être gavé bien les amis, donc voilà,
non.
Vous êtes...
Non, tu n'emploies pas de ce type de...
Non, on peut pas.
D'expression, de, on peut pas. De non, vocable.
Tu as raison.
De vocable régional.
On va éviter, on va essayer de parler un peu pour tout le monde. On va s'adresser à tous nos auditeurs de France entière et qui nous écoutent même aussi à l'étranger puisqu'ils sont, ils sont de plus en plus nombreux. Voilà, donc il y a déjà pas mal de monde sur le chat. Alors oui, effectivement, ça vous fait bizarre. Steve n'est pas là ce soir. Donc petite pensée pour notre ami Steve. Steve qui travaille et il termine très très tard et donc on a décidé de prendre le relais et de présenter l'émission malgré tout. Voilà, donc il y a un petit programme sympathique. Alors ça va pas être une émission de 3 heures je pense, mais en tout cas je pense qu'on va bien s'éclater. Comme d'habitude, on va commencer d'abord avec un petit WhatsApp. Flo, mon ami, qu'as-tu de beau à nous raconter d'un point de vue geekry?
Oui, mon cher ami. Je continue à jouer à Fallout 4 quand j'ai le temps. Mais ça marche bien, je suis content. J'ai fait un reroll en fait.
T'as changé de personnage?
Oui. En fait, comme c'est assez obscur, les mécanismes du jeu sont assez mal expliqués en fait. Comme j'ai appris un peu en route, j'ai eu envie de profiter plus de certains éléments du jeu dès le début, donc j'ai recommencé un perso en mode très difficile, j'étais en difficile.
D'accord.
Ça reste, le jeu ne reste pas forcément très très difficile.
Mais tu gardes ta progression, c'est ça, tu peux ou t'es obligé de repartir du début quand même?
Non, j'ai recommencé un perso depuis le début.
Ah ouais, depuis le début.
Ouais. Okay. Mais finalement c'est pas plus mal parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le jeu que je suis parti dans des directions différentes, j'ai fait des quêtes à d'autres endroits, donc chaque partie est assez différente à part le tout début quoi.
Est-ce que dans Fallout 4 on peut la jouer un peu super méchant ou super gentil, on peut choisir un peu cette orientation ou est-ce que c'est plus subtil?
Ah oui, tout à fait, c'est-à-dire que tu peux
être super connard quoi.
Tu peux être un connard. Et en étant un connard, tu peux gagner en affinité avec certains de tes compagnons.
D'accord.
Et tu peux avoir des relations amoureuses avec n'importe lequel de tes compagnons, enfin sauf le chien et le super mutant. Homme, femme, n'importe quoi.
C'est triste pour les super mutants.
Et du coup, selon les caractères de ces persos, ils apprécient plus ou moins certains traits de caractère et certaines réponses que tu peux faire. Et certains actes que tu fais, et du coup, parfois ça augmente ton affinité, et ça te permet d'accéder, enfin tu peux flirter avec avec des personnes si tu fais, si des fois tu fais des choses pas bien.
D'accord.
Après t'as pas vraiment de compagnon mauvais. C'est plus t'es plus ou moins un petit chenapin.
D'accord, ok.
Voilà. Mais c'est toujours très 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 riche. C'est vraiment top. Vraiment top ce jeu. On a regardé, on regarde The Get Down, la série Netflix qui est sortie il y a peu de temps, donc créée par Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, c'est
Moulin Rouge,
c'est Moulin Rouge,
Roméo
Chicago,
et Juliette.
Gatsby,
Roméo plus Juliette.
Enfin, voilà, tous ces films slash comédie musicale. Voilà, sur les débuts du hip-hop en 77, voilà, avec Grandmaster Flash, Kool Herc, Africa Bambaataa, tout ça. Ça suit un jeune qui se découvre un talent pour rimer, quoi. Et il va essayer de s'en sortir dans le Bronx. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du hip-hop. Comme moi, c'est vachement intéressant. Alors il y a de la romance dans cette histoire, évidemment, mais c'est quand même super super intéressant. Les personnages sont en couleur, et puis c'est bon, il y a un peu la touche Baz Luhrmann, donc parfois un peu psychédélique, quoi, un peu hors de la réalité, quoi.
Ouais.
Enfin, ça se voit plus ou moins selon les épisodes, hein, parce que je crois qu'il a réalisé les deux premiers, et après c'est d'autres réalisateurs. Donc la réalisation est beaucoup plus posée sur certains épisodes, mais je crois que sur le premier par exemple, c'est très couleur, un peu flashy. Voilà, si vous connaissez un peu
les films, effets de style de Baz Luhrmann.
C'est très étrange, quoi. On peut ne pas rentrer dedans, quoi. Mais la BO est géniale. Il y a évidemment des mix hip-hop, mais il y a aussi surtout beaucoup de funk et de disco. Et ça pète bien, ça pète vraiment bien. Donc ouais, c'était cool.
Ouais. D'ailleurs, en parlant par rapport à cette période, alors je ne les ai pas lus, mais j'ai un client assez mélomane à la boutique qui est un grand amateur de la série Hip Hop Family Tree qui sort chez Fantagraphic et qui a priori retrace toutes ces périodes en version comics.
Oui. Et ça, en plus, ça a gagné un nombre de awards phénoménal.
Ouais. Année par année. Donc voilà, j'en parle parce qu'il n'arrête pas de m'en vanter les mérites. J'ai pas eu l'occasion encore de tester. Mais ça peut être un bon complément, je pense, à The Get Down.
Ça sort sous forme de graphic novel ?
Ouais, et depuis cette année, je crois qu'ils ont refait une nouvelle édition en version single. Mais en tout cas, voilà, c'est un titre qui a beaucoup de bonne presse en général.
On me dit que je suis un poil bas sur mon son.
Ah, monte ton son. Vas-y, mets du flow. Pardon.
Je me montre un petit peu, mais j'ai peur que ça sature après.
D'accord.
Et quoi d'autre ? Eh ben, quoi d'autre ? T'es au courant ? On prépare l'ouverture d'une grande boutique demain soir. Alors, on est un peu occupé.
Effectivement. Alors ça, c'est très très auto-centré sur Bordeaux, mais...
Ah oui,
ça,
mais
ça peut intéresser pas mal de monde aussi, quand même. Donc,
Ah ouais, ouais. Donc, ma chère femme, Aurélie, et ta chère copine,
voilà.
Audrey, ouvre une boutique d'art de la table décoration par des créateurs français. Donc c'est que de la petite série, des artisans.
Ouais,
des produits superbes, vraiment des produits magnifiques.
C'est des œuvres d'art, hein, certains.
Je suis repassé à la boutique aujourd'hui pour les aider. Ils avaient reçu encore d'autres choses ça avait une gueule formidable. C'est vraiment, il y a des choses superbes. À la fois de la vaisselle, des mugs, des trucs, des tissus aussi. Enfin, c'est
vraiment super beau. Maintenant.
Des coussins, beaucoup
pas mal de coussins.
Et ça ouvre demain à 18h.
Inauguration de 18h à 20h. Alors s'il y a des Bordelais qui nous écoutent, c'est rue du Palais Gallien.
41 rue du Palais Gallien, à 100 mètres, moins de 100 mètres de la place Gambetta.
Voilà. Et si vous ne pouvez pas venir à l'inauguration, la boutique ouvre à partir de samedi. Et voilà, si vous voulez rencontrer nos chers et tendres lors de votre passage sur Bordeaux, voilà, la boutique Le Local ouvre très prochainement et c'est très sympa. Pour vos cadeaux de Noël.
Allez sur Facebook, likez la page Le Local Bordeaux.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, vous pouvez, si vous venez sur Bordeaux, vous pouvez faire un petit passage à Pulps, un petit passage au local et c'est parfait.
Voilà, en plus, en termes de chemin touristique, c'est plutôt cool. Quoi, du local
sympa.
À Pulps.
Ça fait passer par les bons endroits et tout. Ça
passe par des rues commerçantes, tout, nos quartiers, c'est très bien.
Voilà. Donc, une grosse pensée pour nos chéris. Et voilà, donc c'est vrai que ça occupe pas mal nos esprits en ce moment.
Oui, et puis on donne des coups de main aussi. Donc, du coup,
voilà, c'est ça.
J'ai fait des trous dans les murs et tout.
L'expert des trous, de la perceuse.
Ah, oui, j'aime les trous. ouais, c'est pas du tout geek, mais fallait quand même le mentionner parce que ça prend une grosse part du temps de notre vie ces derniers temps.
Tout à fait.
Donc c'est assez cool. Et voilà ma foi.
Ouais. Alors moi de mon côté en série télé pas grand chose. En fait, en dehors des moments où justement Audrey travaille à la préparation de l'ouverture du local, on se fait un marathon Harry Potter en film. Je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, mais donc voilà, j'ai eu un coffret avec les 8 Blu-ray de Harry Potter. Et bon, c'est l'occasion de les revoir parce que je les avais pas revus depuis que je les avais vus au cinéma. Et Audrey en avait dû en voir 3 sur 8 et pas dans le bon ordre. Donc c'est quand même plus sympa de se les remater dans l'ordre. Alors là, on a terminé hier soir sur le 7e film partie 1, qui est très très laborieux hein, quand même. Celui-là, c'est... Ils veulent instaurer c'est les reliques de la mort partie 1. Ils veulent instaurer une sorte de petite de malaise et tout parce que voilà, il y a Voldemort, celui qu'on ne peut pas nommer, qui commence à faire des siennes et du coup c'est un peu ambiance voilà bad sum quoi, c'est le sum quoi. Et mais le film est un peu plan quand même. Donc on a failli s'endormir, mais en tout cas ça faisait plaisir de revoir ces films, et puis ça prépare à l'arrivée du prochain film de la saga qui va se passer avant, qui sortira normalement cet hiver. Et côté jeu vidéo, c'est toujours The Witcher 3 qui occupe mes instants gaming. Voilà, j'ai une préco aussi sur un jeu qui arrive demain, c'est le BioShock. En version HD machin là pour refaire les 3 BioShock, des jeux qui sont cultes pour moi et j'ai très envie de les refaire et j'ai jamais fait les 2 derniers DLC de BioShock Infinite qui sont censés un peu faire le lien entre les différents jeux. Et donc ça sera un vrai plaisir de découvrir ce jeu, il me tarde de mettre la main dessus, sachant que il y a un nouveau mode de jeu qui est assez sympathique où on a la possibilité de voir des interventions de Ted Levine qui raconte un petit peu la conception du jeu au fur et à mesure qu'on joue, une sorte de commentaire vidéo en même temps qu'on joue, qu'on peut activer ou non, mais ça m'intrigue. Donc voilà, et puis un peu de Pokémon Go aussi. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go un petit peu. Et donc c'est sympa. Et alors je balance. J'ai discuté avec Steve pour m'aider à préparer un peu l'émission l'autre soir. Je crois que c'était mardi soir. Et Steve, c'est quand même un sacré joueur de Pokémon Go aussi. Hein. On voit, il maîtrise bien le truc. On n'a pas l'air comme ça, mais en fait, il a ses petites techniques. Il connaît bien les trucs sur les IV des Pokémon et tout. Là, il est chaud patate. Alors après, par contre, c'est vrai que là où il habite, c'est un peu compliqué. Genre, il est super content quand il voit un Rukul, mais à part ça, c'est quand même un sacré gros expert de Pokémon. Donc voilà, donc, moi, je balance. Voilà, donc le petit WhatsApp qui se termine sur une petite touche rigolote. On va commencer les reviews de la semaine avec une sélection de titres qu'on a décidé de lire. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par DC Comics. Et c'est Flo qui va commencer par nous parler de Doom Patrol numéro 1.
Oui. Doom Patrol, le titre qui lance le nouveau label de DC, Young Animal, Donc un label chapeauté par Gerard Way. Gerard Way, c'est My Chemical Romance, Umbrella Academy notamment, qui revient à l'écriture des comics, et qui écrit seul Doom Patrol, le titre phare de ce label. C'est dessiné par Nick Derrington, un artiste que je ne connaissais pas d'ailleurs, colorisé par Tamara Bonvillain, lettré par Todd Klein. C'est une réinvention, en fait, c'est un reboot de la Doom Patrol, finalement. Ça se passe pas vraiment dans l'univers DC classique, hein. C'est un elsewhere. On est loin de la Doom Patrol un peu moisie qui avait été introduite par Geoff Jones il y a 2 ans de ça.
il l'avait introduite et il l'avait tuée dans l'épisode d'après, si je me souviens bien.
Voilà,
c'était génial.
Un truc un peu ridicule. Où on va suivre un nouveau personnage, enfin à ma connaissance en tout cas, qui sera au cœur de cette histoire. C'est le personnage de Kazé Brink, qui est ambulancière et qui est un petit peu un personnage un peu haut en couleur, pas haut en couleur, mais un peu perché, quoi. Elle a des petites obsessions, elle est un peu dans son monde tout le temps, elle est un peu distraite. Voilà, elle a tout un monde fictif qui la passionne, et du coup elle est un petit peu à part de ses collègues, notamment d'un de son collègue ambulancier depuis quelques semaines, qui essaie encore de comprendre un peu qui elle est.
Ouais.
Sam, c'est ça.
Il s'appelle Sam, ouais, c'est ça.
Il s'appelle Sam.
Il aime bien manger des burritos.
C'est un grec. Hein. c'est un kebab. Et on va finalement suivre tout le long de ce numéro un petit peu sa vie d'ambulancière. On va la voir rentrer chez elle, etc. On va voir un petit peu. Il va lui arriver des choses un peu étranges parce que c'est un comics qui s'appelle Doom Patrol. Et Gerard Way est un peu un grand fan de Grant Morrison. Il a épluché la Doom Patrol de Grant Morrison en bas et en travers.
Ouais, Morrison avait fait une apparition dans un de ses clips pour My Chemical Romance. Donc c'est vraiment, ils sont potes, quoi.
Oui. Et puis c'est vraiment un gros, 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 gros fan. On le voit aussi dans les thématiques de ces comics, hein, clairement. Mais du coup, ce comics va un peu emprunter à la Doom Patrol de Grant Morrison. Mais on sent quand même que Gerard Way a un style bien à lui, un peu plus poétique, un peu plus lyrique, moins hermétique que peut l'être celui de Grant Morrison, notamment sur la Doom Patrol, moins dans un autre espace-temps. Ceci dit, il y a quand même quelques moments assez what the fuck, où on se demande mais il se passe quoi. En revanche, ces moments-là sont très bien amenés, ce qui fait que ils sont intéressants à lire, ce qui fait que au contraire d'un comics, un comics à la con de Warren Ellis dont on comprend rien. Là, on trouve ça chelou, mais on a envie de savoir pourquoi c'est là et pourquoi on parle de ça. Par exemple. Un personnage emblématique de la Doom Patrol, Robotman, va être introduit au lecteur à travers une quête à l'intérieur d'un microverse contenu dans le kebab que mange le collègue
de Space.
Et là, on se dit, Sam commence à faire un monologue sur les univers cachés et tout, et d'un seul coup. Gros plan sur le kebab, et là on passe sur un autre style de dessin un peu au fusain qui illustre ces séquences là où on voit la quête de Robotman pour on dirait s'affranchir de robots esclavagistes, on dirait,
C'est chelou, hein. J'avoue, c'est... là, j'ai trouvé ça très étrange, effectivement, cette scène. Mais
c'est la quête de Robotman pour arriver dans notre monde, hein, finalement. Ouais, mais c'est comme ça qu'il va.
Ce qui était malin, c'était la narration, voilà, qui était liée justement au discours et aux métaphores de l'ambulancier. Du coup, c'était assez malin, la mise en.
Oui, c'est assez amusant. Il y a d'autres moments chelous, par exemple, quand Gérard Way nous présente ce qui a priori seront les vilains de la série, en tout cas de Stark. des vilains qui ont des tronches, qui sont des humanoïdes aux tronches un peu bizarres, un peu à la Tron.
Ouais.
Et deux qui ont des tronches un peu de beurre qui coule. Oui. Et qui sont en train de parler de l'expansion de leur chaîne de fast-food intergalactique.
Là, ça m'a fait penser à Invasion Los Angeles, moi, de Carpenter. Ce côté, les monstres bizarres qui sont cachés parmi les humains, et après ils révèlent leur visage un peu chelou, là. C'était.
Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on sent que c'est enfin, on comprend pas trop la menace que ça peut être d'étendre leur chaîne de fast-food. Mais on comprend qu'il y a un petit easter egg qui nous fait comprendre qu'on va sans doute, avec ça, découvrir un autre membre aussi emblématique de la Doom Patrol, de Grant Morrison, justement.
D'accord.
Un certain Danny.
Alors moi je suis passé à côté parce que j'ai lu le comics aussi, et par contre moi j'ai jamais lu la Doom Patrol de Grant Morrison.
C'est à lire, hein. C'est vraiment à lire. Personnellement c'est ce que je préfère de Morrison. Enfin, c'est un truc.
Moi j'aime bien Morrison en général, c'est vrai, mais j'ai jamais réussi à m'y mettre à Doom Patrol. J'ai tenté justement ce numéro en me disant j'espère que ça va pas être trop difficile de rentrer dedans sans avoir les références. Comme tu l'as dit, la narration est suffisamment lisible pour pas se sentir perdu. Et puis c'est bien aidé quand même par les dessins qui sont très très clairs. Très, oui. T'as pas l'impression qu'ils veulent en mettre trop dans les différentes cases. C'est quand même très lisible. C'est même plutôt joli. Par contre, j'ai été quand même assez paumé par certaines phases, certains éléments. Je sais pas si on est dans un univers foufou ou un univers proche d'une autre avec quelques éléments fous qui vont arriver dedans. Enfin, il me manque un peu certaines.
Je pense que c'est un univers contexte, très mais... proche d'une autre, sauf que Casey Brink a une personnalité qui est si particulière, qui fait que peu de choses la.
Mais quand il y a la meuf qui fait des claquettes, qui fait exploser la tronche de son logeur. Là, j'ai pas très bien compris quand même. Ça, c'était un peu étrange, mais bon. On verra bien ce que ça va amener par la suite.
Mais justement, ces moments-là sont de la manière dont ils sont écrits et illustrés, finalement, passent très bien dans la lecture, ce qui fait que on se dit pourquoi ? Mais justement, ça donne envie de savoir pourquoi, et tous ces personnages-là un peu en couleur et finalement pas tellement stéréotypés. C'est un peu des ardoises vierges, quoi. On n'a pas de présupposé sur ces personnages, quoi. Même Kazek, qui est un personnage un peu perché et tout, je trouve qu'il évite dans l'écriture, il évite d'en faire une genre de Manic Pixie Dream Girl, tu vois, genre à la Delirium dans Sandman, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est un personnage un peu perché comme ça, mais finalement il est pas stéréotypé. Mais non, ça se lit très très bien. Moi, j'ai vraiment été accroché.
Ça m'a intrigué. Alors après, j'ai pas été aussi captivé que j'aurais pu l'imaginer. J'ai trouvé qu'il manquait peut-être quelques pages pour vraiment. Parce que quand arrivent les deux dernières pages qui sont censées nous amener sur le cliffhanger, je trouvais qu'elles étaient elles sortaient un peu de nulle part. Et j'aurais peut-être aimé qu'ils développent un peu plus leur univers dans le premier numéro pour pas avoir cette sensation peut-être de pas en avoir eu suffisamment à manger, comme le dirait notre ami Corwin. Mais en tout cas, ça a attisé ma curiosité. Je suis assez étonné. Ça change d'autres comics qu'on a pu lire chez DC récemment. C'est un peu foufou et pour ce nouvel imprint, c'est sympathique comme premier numéro. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé la lecture sympathique.
Pour moi aussi, vraiment. Les dessins aussi sont vraiment très très bien, très clairs, avec un style. Un peu un style indé avec un trait vraiment lisible et
ouais,
très très sympa, vraiment très sympa. Une colorisation de Tamara Bonvillain aussi qui va bien parce que elle est sur les séquences dans notre monde, il y a un style un peu néon avec des couleurs parfois un peu irréelles, mais pas trop, juste ce qu'il y a de un peu pitché vers le néon. On le voit, hein, des fois les couleurs sont un peu saturées, un peu étranges, mais pas trop non plus, et franchement ça colle très très bien au ton du comics. Bon point la colo.
Il y a un petit côté Becky Cloonan, je trouve, dans les dessins.
Oui, c'est vrai.
Qui, voilà, si ce style vous plaît, ça vous retrouvez un petit peu, je trouve.
Becky Cloonan, un peu Evan Shiner aussi, ouais. Sur certains styles, sur certains visages. C'est très beau.
Il y a plein de détails. Hein. Il y a plein de petits détails un peu cachés sur les différentes pages. C'était sympa. Il y avait pas mal de couvertures variantes pour ce numéro. J'ai vu que Gré Pigeon parlait d'une couverture de Brian Bolland qui était vraiment très belle, effectivement. Il y avait du Babstar aussi. Il y avait
de Jaime Hernandez aussi.
Jaime Hernandez, oui, voilà, du Sanford Grid. Donc Sanford Green. Donc on voit qu'ils ont voulu quand même mettre toutes les chances de leur côté en proposant pas mal de variantes pour que les comic shops achètent ce titre. J'en vais pas en faire un ultra buy parce que je suis quand même un petit peu paumé à la fin de cette lecture, mais en tout cas ça a attisé ma curiosité. Moi ma note ça va être un check it plus.
Moi c'est un très bon buy. C'est aussi parce que je suis fan de la Doom Patrol, mais même pour ceux qui connaissent pas la Doom Patrol, faut avouer qu'il y a pas, il y a des pistes, des choses. On voit Robotman, mais à part ça. C'est à peu près tout. Pour le moment, il n'y a pas de Doom Patrol, quoi. On voit pas le Nils Calder, le chef. Enfin, si, on le voit sur une page très drôle où
oui, il fait du piano.
On va pas raconter. Mais on voit sur une page interlude très marrante. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de Doom Patrol. Donc tout est ouvert à interprétation. Donc finalement, on peut y aller.
Ouais.
Faut juste accepter qu'il y a des choses qu'on va pas comprendre. Et qu'il y a une certaine poésie quand même là-dedans, quoi, dans le storytelling.
À noter pour les personnes qui achètent la version papier qu'il y a dedans en plus un bonus, il y a les premières pages de Chade the Changing Girl qui a l'air bien barré également.
Ça a l'air cool.
Prochain titre qui sortira en octobre. Et on a un petit peu d'édito aussi avec c'est marrant parce que c'est un édito qui est dédié à Shelley Bond, qui vient de parler justement de. C'est Gérard Way qui s'exprime un peu sur son de ses intentions avec ce comics. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des petits bonus de ce type dans des comics, surtout chez DC, il n'y en a pas souvent, ou alors c'est des pubs pour des séries ou pour des titres qui n'ont rien à voir avec ce qui est dans le comics. Donc ça c'est aussi une bonne chose, je trouve, pour ce premier numéro de ce nouvel imprint, c'est qu'ils veulent amener un petit côté un peu à la Image et à la Vertigo qui est cool. Et j'ai l'impression qu'ils ont été peut-être un peu plus soft aussi en pub, je sais pas, j'ai l'impression. Mais...
Je sais pas.
Il y avait certains titres Vertigo ces derniers temps, j'avais l'impression qu'il y avait des pubs partout. Mais,
oui, c'est probable qu'il y a quand même. Il y a les pubs pour les prochains titres Young Animals, et c'est à peu près tout en fait. Hein.
Donc un check-it plus pour moi et un bon bail pour Flo. Donc on va maintenant partir sur notre deuxième review d'essai. Et là, on va vous parler de Suicide Squad, le numéro 2. Donc, c'est moi qui vais vous présenter le titre, écrit par Rob Williams et dessiné par Jim Lee. Ce petit découpage avec une première partie d'une dizaine de pages dessinée par Jim Lee, un peu plus de 10 pages, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de pages par Jim Lee. Et il y aura également un backup qui, cette fois, sera dessiné par Ivan Reiss. Alors, on est dans la première mission de la Suicide Squad post-Rebirth. Ils ont été envoyés pour aller dans un sorte de centre pénitentiaire ultra sécurisé pour récupérer un artefact, un objet magique. Ils ont été catapultés de l'espace, cette fine équipe de la Suicide Squad, pour atterrir au fond de l'océan. Et là, bien sûr, tout va mal. Donc on va les voir un peu se dépatouiller, essayer de survivre justement sous l'eau. On va découvrir comment ils vont réussir à pénétrer dans ce système pénitentiaire. Et petit à petit, on va découvrir de nouveaux personnages. Et j'ai été un peu surpris. Voilà, les deux premiers numéros de Suicide Squad, j'avais trouvé ça vraiment bidon. Le 0 et le numéro 1, je les avais trouvés assez naze. Et le 3 m'a surpris, ce numéro 2 m'a surpris par quand même la fin qui le relie à voilà, une menace d'essai qui était apparue il y a quelques années et qui avait disparu. Et là, du coup, ils la ressortent un peu de leur chapeau. Et bah, j'avais bien aimé l'arc dans lequel il était revenu. Je vais pas dire dans quelle série c'était, mais j'avais bien aimé son nouveau design à ce personnage. Et le voir revenir à la fin de cet épisode de Suicide Squad, j'ai trouvé ça assez cool. Et surtout, il y a quand même une scène assez choquante auquel je ne m'attendais pas à la fin du comics. Voilà, c'est un comic qui s'appelle Suicide Squad. En général, il y a des personnages qui meurent, mais là, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, j'ai trouvé la lecture quand même assez plaisante pour cette fois. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Flo, de la première partie?
Moi, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, même le numéro 1, je l'ai aimé. Le Rebirth était très, bon, c'est très
Ah
scolaire,
ouais.
hein, comme beaucoup des numéros Rebirth. Mais
Moi, le 1, il m'avait fait chier un peu, et puis le backup,
Ah,
je l'avais
bah
trouvé
voilà.
assez raté. Et puis alors, moi, franchement, le coup de ces petites prisons là qui sont ramenées par des sortes de pinces mécaniques et qui ramènent les différents membres de la Suicide Squad comme dans Masque, je trouvais ça quand même un peu ridicule, mais bon,
Bah c'est,
là
oui, mais c'est assez assumé quand même, hein, je veux dire, faut pas, faut, enfin,
oui,
c'est un comics qui est très assumé.
c'est vrai que c'est
En
assez
fait,
assumé.
j'ai le sentiment, Rob Williams, c'est pas un auteur idiot, hein. C'est pas un mec
Oui.
qui fait habituellement du comics popcorn à la con,
Voilà,
voilà.
là, il en fait quand même un peu.
Oui, mais
Ça le
on
défoule
sent.
parce que c'est pas la qualité d'Unfollow, on va dire.
Non, mais je sens dans l'écriture, en fait, je sens dans l'écriture que c'est un mec intelligent qui écrit un comics justement volontairement assez action fun et du coup enfin je trouve que ça passe vraiment très bien. Il y a que Rick Flag que
Oh là
je
là,
trouve un peu
bidon.
nul comme perso.
Ouais.
Il est bon, mais le perso déjà à la base est un peu chiant quoi. Le rabat-joie à côté de ces personnages un peu plus haut en couleur, bon, Rick Flag est chiant. Mais sinon j'aime bien, je trouve que ça se lit bien. J'ai passé un bon moment au numéro 1 et j'ai été surpris aussi par la séparation du coup en deux parties.
Ouais.
Et finalement ça passe bien parce que les histoires la deuxième histoire et la
Bah.
dernière fois était intéressante et cette histoire-là est également
Ouais.
je trouve vraiment vraiment sympa.
Avec une résonance assez intéressante avec ce qui se passe dans la première partie. Mais graphiquement, en plus, je trouve Jim Lee, bon, on sent qu'il c'est pas du Jim Lee super où il s'applique. Mais il y a quand même quelques idées sympas. Il y a le petit plan séquence où on voit Harley Quinn et Katana faire du démembrement qui est plutôt cool. Même si là, par contre, autant j'ai trouvé les dessins réussis, autant j'ai trouvé les dialogues de Rob Williams un peu chiant, toute la tirade de Harley Quinn. Mais il y a quelques idées dans la mise en scène qui sont plutôt cool.
Oh, moi je trouve que ça se lit bien. Bon, graphiquement, bon bah Jim Lee quoi.
Ouais.
Si on n'aime pas Jim Lee, on n'aimera pas. Moi c'est clairement pas graphiquement le truc qui me plaît le plus hein, comme série, mais je trouve l'écriture cool. Donc le scénario
Et pour un.
il est minime, il est minime. Vous rentrez là et puis vous récupérez ça et voilà et vous repartez quoi. Mais il y a des trucs marrants. On sent que c'est un mec intelligent qui écrit derrière quoi. Je trouve il y a un côté assez espiègle dans l'écriture qui me plaît. Et je m'attendais à pas vraiment aimer. J'y suis allé pour Rob Williams d'abord et
Ouais, donc je suis d'accord. Franchement, ça relève le niveau après le numéro 1. Moi, je l'avais personnellement pas trop apprécié. Mais en tout cas, celui-là, il y a des scènes chocs. Et puis, j'ai trouvé que le backup avait une belle résonance en plus avec l'histoire principale. On va pas dire ce qui se passe dans le backup, justement. Mais du coup, ça fait un numéro qui est assez complet. Et j'irai voir la suite clairement. Donc, ça passe. J'aurais fait un pass pour le numéro 1. Là, je fais un bon check-it aussi pour ce Suicide Squad numéro 2.
Ouais, bah moi aussi un bon check it. Et la deuxième histoire est presque mieux en fait, centrée sur Boomerang, dessinée par Ivan Reis.
Ouais.
Est vraiment sympa parce que le.
Il y a de belles métaphores. Il y a de belles images.
Il y a de belles métaphores et puis ça colle avec justement la personnalité, l'histoire et Maline, quoi. La manière dont elle est racontée et tout, c'est vraiment sympa. Elle est assez divertissante, donc enfin on peut pas dire qu'il sait pas écrire les persos, tu vois, dans cette, je trouve le personnage de Boomerang dans cette histoire est,
vachement bien écrit, quoi. Son talent d'écriture, on le ressent plus effectivement quand il a un peu le temps de développer les persos.
Ah oui, c'est sûr.
Dans le backup que dans les scènes d'action.
Mais heureusement que c'est ce qu'il est divisé en deux, parce que du coup on peut goûter un peu à différents trucs et c'est ça limite, ouais, qui maintient l'intérêt de la série.
C'est une façon aussi facile pour DC de permettre à Jim Lee d'être présent sur tous les numéros, hein, c'est assez malin et bon, tant mieux, on va pas bouder notre plaisir quand les backups sont cool.
Bah, dessiné par Fabok ou Ivan Reis, c'est plus joli
que les bons auteurs avec eux. Donc voilà, donc on, toi c'était ta note, c'était un
très bon check-it, ouais.
Et un check-it aussi pour ma part. On va passer à un titre qu'on aime beaucoup jusqu'à présent. J'ai pas eu le temps de le lire moi cette semaine, mais donc Flo va nous parler de Wonder Woman numéro 6.
Oui, écrit par Greg Rucka, dessiné par Nicolas Scott, colorisé par Romulo Farrardo Jr. C'est la troisième partie de Year One, donc l'arc dessiné par Nicolas Scott, d'une série qui continue à être une merveille absolue. Pour moi, c'est déjà un chef-d'œuvre. Pour moi, cette série, c'est déjà un classique. Hein. Honnêtement, c'est écrit avec.
C'est beau.
Déjà, c'est très beau.
Non, mais c'est beau ce que tu dis ici aussi.
C'est écrit avec une sensibilité et une justesse vraiment incroyable. Jusque-là, c'était surtout cet arc Year One, mais même l'arc Lies avec la relation entre Cheetah et Diana est également écrite de manière.
Ah, c'est très touchant. Moi, j'aime beaucoup cette partie aussi. J'avoue même un peu plus apprécier la partie dans le présent que la partie dans le passé, parce que la partie dans le passé, j'ai un peu trop cette sensation d'avoir déjà vu. Justement,
la partie dans le passé, donc Year One, pour moi, elle est pas déjà vue parce qu'elle est écrite de manière tellement émotionnelle et tellement sensible comme aucun autre auteur l'a fait. Même si Grant Morrison l'a fait, alors j'avoue que j'ai pas lu la série de René Delis, tout récemment Grant Morrison l'a fait, mais il l'a fait à la Grant Morrison. Il y a pas une sensibilité folle dans les personnages. Là, parfois sur des pages, il y a juste dans un regard, ils disent rien, les personnages se disent rien ou se jettent juste un regard et on comprend des trucs. Enfin, c'est incroyablement bien écrit, bien transmis au lecteur, c'est vraiment fou. Bref, cette troisième partie d'Year One va voir Diana arriver sur la terre ferme, la terre des hommes, dans le numéro précédent, elle était montée dans le jet invisible avec Steve Trevor et les dépouilles des soldats qui s'étaient crachés, dont Steve était le seul survivant. Et on va la voir arriver sur Terre et puis être un petit peu interrogée par de manière tout à fait pacifique, hein, d'ailleurs, par l'armée, par les collègues de Steve Trevor. Elle va être par mesure de sécurité emprisonnée, ça la choque pas plus que ça. Elle découvre ce monde qui lui est totalement étranger. Vraiment, on sent un choc culturel énorme, parce qu'en plus ils se comprennent pas, ils n'ont pas la même langue, ils ne peuvent pas comprendre ce que les autres disent. Et du coup, il y a vraiment ce choc, cette peur qu'elle a quand même de l'inconnu, de tous ces objets. Elle n'est pas effrayée, mais elle est quand même confuse, quoi. Elle est méfiante. Et c'est écrit d'une manière vraiment, vraiment très, très touchante et très, très juste. Et puis, c'est aussi le numéro où on va voir les premiers liens avec l'arc Lies.
Ah,
puisque c'est ce numéro qui va nous introduire Etta Candy, donc un peu plus jeune, en tant que supérieur de Steve Trevor. où elle était lieutenant à l'époque, et où on va voir également Barbara Minerva, alias Chita, qui à l'époque n'était encore que Barbara Minerva,
un peu moins poilue,
linguiste, et qui va être appelée donc par l'armée en tant que spécialiste pour essayer de décoder ce que raconte Diana, et c'est comme ça qu'ils vont un petit peu essayer de se comprendre. Donc c'est vraiment intéressant de voir que dans l'arc Lies, ils parlent de manière extrêmement touchante de leur amitié passée, et des liens très très forts qui y a entre elles deux, et justement de voir de la voir arriver dans cet arc Year One. Je m'attendais, j'aurais été déçu un petit peu s'il n'y avait pas eu ce lien. Et effectivement, c'est tout à fait naturel et c'est tout à fait bien amené.
Ouais, et puis du coup, contrairement à juste des flashbacks, là, ça permet vraiment de les développer pour vraiment en faire des choses très consistantes. Donc ça, c'est vrai que je suis content d'apprendre que ce lien se fait petit à petit et que ça va permettre de nourrir aussi le récit de l'autre partie. Donc c'est cool.
Tout à fait, non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et sur une note, alors qui peut décevoir certains, mais du coup le numéro 8 ne sera pas dessiné par Nicolas Scott, ce sera un interlude consacré justement à Barbara Minerva. Donc un petit peu son histoire, probablement comment elle en est arrivée à devenir Cheetah. Ce qui est du coup un vachement intéressant, parce que ce qui pourrait passer pour un fill-in là devient très très intéressant pour ce personnage qui est au centre de ces deux arcs. Je trouve que vraiment c'est un chef-d'œuvre Wonder Woman. C'est la meilleure idée que DC a eue depuis des années de passer un coup de fil à Greg Rucka. Et c'est très différent de son ancien run, hein, d'ailleurs, hein, où l'ancien run se était vraiment inscrit dans la continuité avec l'ambassade, etc. Il y a maintenant plus de 10 ans.
Il a su se renouveler, quoi, pour faire des choses nouvelles.
On a vraiment quelque chose de très différent. Et puis c'est un autre Greg Rucka quand même, hein, qui a pris 15 ans de bouteille. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et ce Year One et Lies seront, je l'espère, des graphic novels qui se vendront comme des petits pains, parce que c'est
ça fait plaisir.
C'est vraiment magnifique.
Ça fait plaisir. Que le deuxième tome du run de Meredith Finch vient de sortir en français, ça fait plaisir d'entendre des bonnes choses sur Wonder Woman. Qui est le coup de cœur aussi de personnes sur le chat, puisque je crois que Bastien64 et Grépigeon ont énormément apprécié aussi ce numéro. Donc c'est un plébiscite pour Wonder Woman. Donc ta note, c'est un méga pass, non ?
C'est mon coup de cœur de la semaine. C'est vraiment comme à chaque numéro, c'est vraiment j'ai vraiment très rarement lu de comics aussi juste et arrivant à transmettre aussi bien des émotions, que ce soit par les dialogues que visuellement. C'est impressionnant à quel point je suis accroché et je ressens tellement d'empathie pour les personnages. Quand on voit la mère de Diana dans les numéros précédents avec sa compagne et les regards, etc., c'est magique, quoi. Et la relation aussi entre la mère et la fille qui sont formidables.
Cool.
Je vais me taire tout de suite.
Espérons que la Warner Bros. Va nous proposer un film Wonder Woman d'une même qualité. Donc on va passer à notre dernière review chez DC Comics. Donc un titre qu'on a tous les deux lu. Un titre dont je ne crois pas qu'on avait fait une critique du premier numéro. Donc c'est le All-Star Batman numéro 2. Alors c'est le gros titre de chez DC, hein. C'est un titre qui a $5, qui bénéficie d'une couverture avec un carton un peu plus épais, carton luxe, et c'est le titre de Scott Snyder qui est encore un petit peu là pour s'occuper de Batman, et pour le coup il s'est adjoint les services de Romita Junior au dessin. dans un arc voilà, qui entame son deuxième numéro. Ça s'appelle My Own Worst Enemy. Et j'ai lu les épisodes 1 et 2 d'affilée, puisque j'avais pas lu l'épisode 1 au moment de sa sortie. Et j'avoue que après avoir été grandement déçu par Snyder sur la fin de son run dans les New 52 sur Batman, je retrouve un petit peu la forme de monsieur sur cet arc, avec de très bonnes idées. Et tout particulièrement le pitch, le point de départ de cette histoire que je trouve assez extravagant, mais en même temps super fun. Donc ça va être une course contre la montre avec un Batman et un double face qui vont devoir faire une sorte de road trip, atteindre un lieu qui pour l'instant est encore assez mystérieux, puisque c'est la personnalité gentille de double face qui a dit à Batman que peut-être qu'en atteignant cet endroit, ils allaient pouvoir le sauver. Mais il y a la personnalité méchante de Double Face qui après reprend le contrôle et décide de s'exprimer devant le grand public, et il connaît les secrets de tout le monde, les gentils, les vilains, et il dit que si jamais Batman réussit à l'amener dans ce fameux lieu un petit peu secret, tous les secrets vont être dévoilés et tout le monde va pouvoir va en pâtir, et que à l'inverse, si quelqu'un a réussi à arrêter Batman et à le sauver, eh bien il va lui verser la totalité de l'argent des trois chefs de la mafia de Gotham actuelle. Le Pingouin, Black Mask et compagnie. Donc du coup ça va intéresser quand même pas mal de monde, et donc ça va être un récit qui va à 100 à l'heure, où pas mal de vilains vont s'attaquer à ce pauvre Batman qui tant bien que mal essaye de conduire Two-Face justement dans cette maison. Et dans ce numéro 2, on va avoir Killer Croc qui va faire équipe avec King Shark et avec un gros balèze Amidala, qui vont se battre avec Batman. C'est assez fun. Il écrit un Batman Snyder qui je trouve utilise beaucoup plus de punchline qu'avant. Alors ça fait un peu bizarre même parfois, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir comme ça sortir des punchlines de films d'action, mais ça donne un petit côté rafraîchissant que je trouve assez plaisant. Et j'ai trouvé que Romita aussi se débrouille pas mal. Il a l'air de bien s'éclater avec son Batman. C'est un récit un peu what the fuckesque par moment quand même, parce que je me rappelle que dans le premier numéro, par exemple, j'avais été assez choqué de la réaction d'Alfred. Bon, il y a des petits soucis aussi pour ma part quant à la narration, puisque Snyder n'arrête pas de faire des bonds dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Ça c'était il y a 20 heures, ça c'est dans 20 heures, ça s'était passé hier, ça se passera dans 2 jours. Donc parfois on s'y perd un petit peu, mais en même temps ça joue à amener un rythme assez soutenu. Donc voilà, je suis quand même assez séduit par cette série, puisque je suis pas trop séduit par la série de Batman de Tom King, et en tout cas celle-là ça me plaît bien. En tout cas ces deux premiers numéros me plaisent. Donc qu'est-ce que t'en as pensé toi, Flo?
Le premier, j'étais un peu dubitatif, je savais pas trop quoi en penser. Je trouvais le principe de départ vachement sympa, et l'exécution plutôt cool, mais avec encore quelques lourdeurs un peu à la Snyder. Ce numéro 2 passe mieux. Et on voit le truc se développer, justement on voit encore plein d'autres vilains de seconde zone qui débarquent. C'est assez marrant, on sent que c'est un Snyder un peu plus en, je sais pas, un peu plus en roue libre. Pour moi ça reste la continuité,
moins référentiel, moins à chercher la référence, là c'est plus original, je trouve.
Oui, bah déjà il sort de Gotham, sort de toute la symbolique de Gotham, etc., qui au bout de 50 numéros commence parfois à être fatigué.
On avait vu le tour, ouais.
Donc c'est rafraîchissant de le voir sortir et d'avoir justement ce road trip un peu dangereux. Après, en termes d'écriture, c'est vrai que ça reste, je pense, dans la continuité quand même de son Batman, puisqu'il a, dans les derniers arcs avec le Bat Bunny, par exemple, il avait commencé à on va dire être un peu plus fun dans le, notamment quand il écrivait justement Jim Gordon en Bat Bunny. Il avait une écriture plus relâchée, plus fun, un peu plus légère, même s'il y avait toujours toutes ces références à Gotham, machin. Hein. Et là, c'est pour moi, ça évolue dans ce sens-là, quoi. Il continue un peu ça. Il y a moins de discours sur le point culture
sur Gotham. Ouais. Alors cette petite allée de Gotham, voilà, eh bien un jour mon père a fait pipi dans cette allée et depuis c'est devenu l'allée de la pisse.
Voilà. Où le cadmium est un élément de la table.
Ouais ouais non le, effectivement ce côté de quitter Gotham c'est sans doute ce qui est le plus sympathique dans ce numéro dans cette série pour l'instant. Et après effectivement c'est aussi une de ses conséquences de son run, alors qu'on ait apprécié ou non, on a quand même un Batman qui normalement est au mieux de sa forme. Il a jamais été aussi fort, jamais aussi puissant. Genre il a limite rajeuni un petit peu après avoir été voilà, être revenu d'entre les morts et d'avoir pu passer outre ses psychoses. Et du coup là on sent vraiment un Batman super dynamique qui voilà qui envoie du pâté et moi ça me plaît. Donc là ça me plaît bien. Après ouais je vois que sur le chat il y a pas mal de critiques sur les dessins de Romita. Alors c'est vrai que il y a certaines planches certains vilains son Killer Croc ouais, il est pas très très réussi. Bon, après voilà,
c'est du Romita ni plus ni moins. Hein. C'est pas ouais, ouais. C'est loin d'être le pire des Romita. C'est en plus c'est colorisé par Dean White donc forcément ça rajoute beaucoup de texture. Dean White qui a un style de colorisation très peint donc c'est un coloriste assez idéal sur Romita justement pour habiller ces traits sont très simples. Il y a un gros boulot hein, quand même de colorisation hein, pour enrichir
ouais, ouais.
Les pages.
Il hein. Y a de beaux effets. Il y a par exemple une planche avec des flashbacks. Que j'ai trouvé très joli, où on voit Bruce et justement Harvey Dent. Et on sent qu'il y a, comme tu dis, qu'il y a pas mal de traitement au niveau des colos, de la colo, et c'est vrai que ça aide bien à améliorer les dessins aussi.
C'est là d'ailleurs où Dean White est le meilleur, hein, sur des dessins simples où il peut enrichir vachement comme ça, parce que quand il est sur des avec des dessinateurs déjà très très fouillés, ça devient n'importe quoi. Wink Wink Black Science par exemple d'ailleurs ils ont changé de coloriste je crois dedans.
Et on a l'utilisation du fameux bat cintre dans cet épisode donc,
oui on voit ce fameux bat cintre
qui était quand même assez mystérieux hein, sur la couverture
tout,
du premier
tout,
numéro
tout faisait, tout, on se disait c'était encore Romita qui a fumé un truc et en fait non ça va
ça existe ça marche il fonctionne ce bat cintre.
Il y a aussi quand même les backups des Clan Chalvet.
Oui, alors oui, les backups.
Par Jordi Belair.
Backups qui sont centrés sur le personnage préféré, je pense, des gens qui sont présents sur le chat ce soir. Donc c'est, oui, c'est ce fameux Duc, le nouveau protégé de Bruce, qui maintenant qui est une création de Scott Snyder, qui a une histoire aussi assez tragique, puisque ses parents ont été victimes du Joker lors de l'arc Mascarade, et ils sont contaminés par le virus, et pour l'instant Batman n'a pas réussi à les sauver, et donc les parents de Duke sont des affreux psychotiques qui veulent absolument tuer leur fils. Donc là actuellement ils sont enfermés, ils sont dans une prison, et on voit que le pauvre Duke essaye tant bien que mal d'essayer de leur faire se rappeler un peu le passé. C'était assez touchant sur cet épisode, c'est justement ces choses concernant sa famille. Par contre là où il y a Snyder qui nous fait du gros Snyder, c'est quand même cette nouvelle idée que c'est les couleurs maintenant qui participent à la formation, qui veut faire mieux que des Robins, et que là il va falloir que Duke passe par différentes gammes de couleurs pour apprendre. Oh, c'est un peu tiré par les cheveux quand même.
Sur le premier backup, sur le numéro 1, ça avait donné des pages sublimes par Jordi Belair.
Ah, c'était très joli, mais c'était
fou. Mais c'est vrai que l'histoire m'a pas passionné, c'est pareil là, l'histoire m'a pas passionné, c'est dommage.
C'est fumeux comme le coup de la machine dans lequel il se foutait sa conscience et ses connaissances et tout.
Oh là,
tout.
Oui.
C'était le truc plus. Encore un peu fumeux. Voilà, mais bon, il y a du potentiel, et puis graphiquement, Declan Chalvet fait de très belles planches, on voit qu'il s'éclate à faire du Batman, et puis il y a une intrigue qui est assez, assez trash, hein, qui tourne autour d'un vilain qui aime bien utiliser des couteaux. Et c'est un bon complément à la partie principale. Donc voilà. Donc au final, je trouve que ça fait quand même un très bon numéro.
Ouais.
Tu es d'accord ?
C'est un bon numéro. Après, c'est loin d'être ma meilleure lecture, quoi. Mais c'est
pareil.
C'est intéressant. C'est après, la narration a du mal à m'accrocher, mais j'aime bien les idées qu'il y a dedans. Voilà. Donc, ça sera un bon check-it uniquement pour moi.
Ouais, alors pour moi, ce sera un bail, parce que voilà, ça me fait plaisir de lire un Batman qui m'intrigue et qui me plaît. Voilà, j'ai été très déçu par le Batman de Tom King. Et pour l'instant, j'ai malheureusement pas encore commencé la série de Detective Comics, dont j'ai entendu que du bien. Mais en tout cas, All-Star Batman, c'est du bon. Donc ça vaut ces 5$. Je lui mets un bail. On va terminer notre partie d'essai en parlant des sorties reliées, les fameux TPB et hardcover qui sont sortis cette semaine. Les trade paperbacks. Il y a de bonnes choses qui sont sorties cette semaine.
Les graphic novels.
C'est ça. On va commencer par des choses un petit peu plus anciennes avec le Green Arrow volume 6, Last Action Hero. Là, on est dans la partie scénarisée par Mike Grell et dessinée par Mike Grell. Donc, ils sont en train de continuer justement la publication de ce run mythique de Green Arrow. Donc, voilà, pour les fans, c'est plutôt cool. Donc, il est à 20€. Après, on a quasiment que des choses très récentes qui sont sorties en relié cette semaine chez DC. On a pas mal de choses autour de Harley Quinn, puisqu'on a le hardcover numéro 5 qui sort, plus le TP du volume 4. Voilà, il y a toujours en général le TP qui sort en même temps que le nouveau hardcover. Et on a également un TP qui concerne la Suicide Squad avec le relié avec la petite histoire de Katana. Qui était sorti dans Suicide Squad Most Wanted. Donc là, ça comprend les parties uniquement concernant Katana. C'est écrit par Mike Barr avec plusieurs dessinateurs crédités. Bon, je me rappelle avoir lu le premier numéro, c'était pas transcendant. Contrairement à une autre série qui sort cette semaine et qui, elle, est Prologus à DC Rebirth, c'est Titan's Hunt qui sort en relié. Donc cette mini-série qui s'intéresse justement aux Teen Titans et à leur passé qui aurait peut-être été modifié. Donc c'est une mini-série qui était en 8 numéros avec en plus pas mal de bonus dans cet épée, puisqu'on a également le Justice League 51 et le Titan Rebirth numéro 1, donc ça fait quand même pas mal de lectures pour 20$, plutôt une bonne pioche. Et c'était une mini-série qu'avait pas mal apprécié Steve, donc ça c'est plutôt sympa. Et on termine avec du Wonder Woman, même principe, il y a le hardcover du volume 9, dernier tome de la série New 52, donc de Meredith Finch qui sort, et également le tome 8 en version souple, le premier, le hardcover est à 25, et le TP est à 17. Voilà, on est complet sur DC Comics. On va passer maintenant aux indés.
Et si on fait une pause musicale?
Est-ce qu'on fait la pause musicale maintenant? Allez.
Bon, on a une heure d'émission.
Je sens que c'est pas mal. On va pouvoir aller se prendre un petit café. Et donc, on a une pause musicale, une sélection musicale qui a été faite ce soir par l'ami Flo. Et donc, on va écouter Talking Heads dans un live de leur titre Burning Down the House. Donc, attention, c'est parti pour 4 minutes.
Thank you.
Et nous voilà de retour. Cette transition avec la pause musicale s'est fait un petit peu à l'arrache. Il y a eu des petits soucis, donc je crois qu'il y a eu un petit blanc au début. Et je ne suis pas sûr d'avoir fait une très bonne transition à la fin. Mais bon, en tout cas, me revoilà. Alors mon son est beaucoup plus fort, me dit Grépigeon. C'est peut-être parce que je suis excité par la présentation de cette émission. Donc on va enchaîner avec les sorties indées. Donc deux titres qu'on a sélectionnés cette semaine avec Flo. Alors le premier, c'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler de mon coup de cœur de la semaine. Eh oui, c'est un coup de cœur indé. C'est un coup de cœur indé, c'est un coup de cœur Image Comics. C'est le nouveau titre de Jonathan Hickman. Ça s'appelle The Black Monday Murders. Et c'est donc le numéro 2. C'est dessiné par Tom Coker. Et c'est du Hickman vraiment... C'est du vrai Hickman bien touffu, bien dense. C'est du Hickman qu'on espère régulier, c'est-à-dire qu'on a eu quand même quelques déconvenues ces derniers temps avec ces séries indées. J'espère que le rythme de parution va continuer et qu'il va pouvoir dérouler son histoire telle que c'est prévu. Mais en tout cas, le potentiel de cette histoire est juste énorme. Alors donc on a droit à des singles qui sont un petit peu oversize. Ils sont à 5$, donc c'est pas donné. Mais par contre, il y a plus de 60 pages de BD. Enfin, il m'a fallu à peu près 40 minutes pour lire le comics. Donc on en a clairement pour son argent. C'est un petit bijou. Alors je suis à fond dedans. Donc par contre, ça va être compliqué de vous expliquer de quoi ça parle. The Black Monday Murders, en fait, ça va nous parler des différentes crises financières qu'il y a eu dans le monde. Ce qui est assez étonnant, c'est que quasiment toutes ces crises ont eu lieu en octobre. En fait, on va se rendre compte que l'économie est dirigée par non pas par juste des gens derrière leurs ordinateurs en train de vendre des actions et compagnie, mais c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est carrément tout un truc cabalistique avec des organisations type culte et secte qui dirigent tout ce qui est l'économie mondiale. Avec le bloc de l'Ouest qui affronte le bloc de l'Est, qui avec un système de... Alors par exemple, on va s'intéresser surtout au bloc de l'Ouest, donc qui est une société financière qui s'appelle la Keina, et avec qui fonctionne avec un système à quatre sièges qui sont chacun tenus par une famille importante. La succession se fait auprès des enfants de chacune de ces familles, et chaque siège tourne au niveau de sa fonction. Et dans le premier numéro, on se rendait compte que tout ce qui est la gestion de l'économie mondiale se faisait aux dépens justement de sortes de manipulation occulte, de sacrifice humain, des trucs bien chelous, bien starbés, que Hickman a créé. Alors il crée toute une mythologie, il s'amuse encore à créer un alphabet, un petit peu comme il avait fait dans Avengers et dans d'autres séries. Il nous dépeint plein de personnages. Alors au début c'est super compliqué, on comprend rien, on est un peu paumé, mais en fait il alterne plusieurs pages de récit avec des pages de prose qui vont nous développer le background de ces différents persos. On a des arbres généalogiques qui permettent de comprendre un peu qui sont ces persos, quels sont leurs liens. Et petit à petit, vraiment, on rassemble les morceaux du puzzle, et on a vraiment une lecture qui est passionnante, qui est active. On est limite, il faut avoir son petit carnet à côté pour noter qui est qui. Et donc au-delà de ce côté un peu plus global où en fait Hickman nous explique que l'économie est gérée par des choses un peu occultes, on a quand même un truc un peu plus concret, c'est-à-dire on a un meurtre à élucider, donc un économiste qui est retrouvé assassiné en haut de sa tour dans une scène assez macabre qui ferait penser un petit peu à ce qu'on a pu voir dans certains épisodes de la série Hannibal. Et on va suivre un flic assez taciturne, mais très un génie un peu qui va enquêter sur ces différents meurtres et qui va essayer de remonter la piste et petit à petit, il va découvrir plein de choses sur ce monde justement occulte. Et donc voilà, on a plein de flashbacks, on a plein de choses qui se passent. Et vraiment, voilà, c'est du comics que j'adore parce que ça fait travailler son cerveau et en même temps, il y a quand même pas mal d'action, d'humour. Il y a des personnages qui sont très charismatiques. Et alors, Tom Cocker, je sais pas Flo si tu connais, moi j'ai pas fait mes recherches, mais je trouve son style super sympa, c'est très très agréable, il y a de magnifiques planches, les visages sont très expressifs, il y a beaucoup de détails, beaucoup d'inventivité dans le design de ces différents personnages, et voilà, donc c'est un vrai plaisir de lire ce titre. Bon, voilà. La seule chose, c'est espérons qu'il y aura bel et bien une fin, que ça va pas être un titre qui va justement nous laisser sur notre faim et qu'on n'aura jamais de conclusion. Mais en attendant, pour l'instant, il y a eu un numéro le mois dernier, un numéro ce mois-ci. Il tient le rythme et moi, en tout cas, ça me passionne. Donc c'est assez complexe, mais en tout cas, c'est clairement ma meilleure lecture de la semaine. Et donc je lui mets un bon gros bail et je vous invite à découvrir cette série, même si ouais, c'est pas évident de rentrer dedans, mais en tout cas c'est du tout bon. Voilà, moi, si Fairy Tales est d'accord aussi avec moi.
Comment j'attendrai qu'un éventuel trade sorte pour l'acheter parce que déjà c'est du Hickman, donc j'ai toujours très peur de pas rentrer dedans, malgré la richesse du truc. Et j'ai aussi peur, comme tu l'as dit, que machin. C'est quoi le dernier truc avec Ryan Bodenheim? Non.
God. Je sais plus quoi là. C'est un truc en trois numéros. Oui, finalement, on attend la suite et on l'a jamais.
C'est ça. Et puis il y a quelques années le truc avec les couvertures. Bah. C'est des radios des dents là.
Oui. Malheureusement. Qui est jamais ressorti aussi. Bon, bref. Le comics avec des couvertures radio des dents. Oui, je m'en souviens très bien.
Tu t'en souviens?
Et on a quand même aussi, je crois, Manhattan Project qui est toujours pas fini.
Leur relaunch
s'est arrêté au bout de deux numéros,
un peu en cacahuète parce qu'ils ont fait trois numéros avec du retard. Ouais, d'ailleurs, Jordi Belair avait claqué la porte parce que le numéro sortait plus.
Alors, avait dit fuck off, mais c'est vrai que c'est ça ma crainte parce que sinon, là, franchement, moi j'adore ce type de comics donc voilà. On va croiser les doigts et on espère que les numéros vont continuer à sortir et que voilà, j'ai pas d'infos sur le nombre de numéros que fera cette série. J'espère que voilà, son scénario est bouclé et que maintenant c'est dans les mains du dessinateur et qu'on va pouvoir aller jusqu'à la fin de cette série. Mais en tout cas, voilà, bon gros bail pour cette série et donc voilà, on va passer à la suite avec. C'est un petit peu exceptionnel, d'habitude on fait pas ça, mais voilà, on profite du fait que le chef, le boss n'est pas là pour tenter des choses. On va vous faire une petite critique, enfin c'est Flo qui va s'en charger, puisque moi je n'ai lu que le premier single de cette série, mais j'avais beaucoup aimé. Flo va vous parler du premier trade de la série The Fix. Voilà.
Oui, bah finalement j'avais pas de lecture indé, alors je me suis dit bon bah j'ai lu cet épée là, allez. Allons-y, et puis j'ai eu la validation de la part du sous-chef, donc bon, on est parti. The Fix, c'est la série Image de Nick Spencer, donc l'homme derrière Superior Foes of Spider-Man, notamment. Dessiné par Steve Lieber, l'autre homme derrière Superior Foes of Spider-Man, colorisé par Ryan Hill, et lettré et designé par Nick J. Chow. The Fix, c'est Superior Foes of Spider-Man, entre guillemets. Mais dans notre monde, avec à la place des vilains de troisième zone, deux flics ripoux qui sont un peu plus doués quand même que les vilains. Ils sont assez malins quand même, ces flics.
Ils font des bonnes combines.
Ils connaissent les bonnes combines. Ils sont pas idiots, quoi. C'est vraiment des enflures et ils sont pas idiots.
Un peu comme dans le film Les Ripoux, hein, pour les Français, voilà.
Ouais.
Je rigole.
Oui, c'est ça, voilà, c'est Les Ripoux en comics.
Avec Philippe Noiret.
C'est ça. et ça va nous parler de ces deux personnages-là et de leur relation avec d'autres flics ripoux qu'ils ont achetés, avec leur boss de la mafia qui est un mec complètement cinglé. Leur boss, c'est un petit peu l'homme le père de famille bien sous tout rapport, le mec toujours souriant, toujours gentil, toujours très conformiste avec son petit gilet, son petit polo. Il mange vegan, il est anti-vaccination. Enfin, c'est le mec un peu youpie.
Tralala.
Youpie des beaux quartiers de Los Angeles. Sauf qu'en fait, c'est un gros psychopathe. Et c'est très très drôle. C'est une personnalité très haute en couleur. J'aurais dit beaucoup cette expression ce soir. Et évidemment, c'est les deux flics, donc Roy et Mac, de leur prénom. Sont complètement flippés dès qu'ils rencontrent ce mec-là parce que ils lui doivent de la thune et ils essaient tant bien que mal de faire des coups par-ci par-là pour lui rembourser, mais bon, ils se loupent un petit peu, notamment la scène d'ouverture, ils essaient de braquer une maison de retraite et plus précisément un des occupants de la maison de retraite dont le contact d'un des flics qui est une infirmière avec qui il a couché a dit qu'il y en avait un qui était plein aux as, alors qu'en fait il avait juste un peu de thune sous le matelas, mais c'était pas grand chose. Et puis surtout, il avait aussi un fusil à pompe sous le matelas, donc donc leur coup s'est un peu mal passé. Et puis le côté padoué aussi, ce qui est assez marrant, c'est que du coup c'est deux mêmes flics qui ont fait le braquage cagoulé qui viennent 5 minutes plus tard pour enquêter sur le braquage qu'ils viennent de faire. Et Roy, évidemment, comme il est très intelligent, il n'a même pas changé sa chemise. Il a fait un braquage en chemisette à fleurs. Et il porte exactement la même chemisette à fleurs en débarquant pour enquêter. Donc il y a des moments comme ça absolument hilarants. Donc ils vont tout faire pour essayer de rembourser ce mec. Mais bon, ils ont tendance aussi à dépenser leur thune dans des combats illégaux de robots. Toute la thune. Donc, et de toujours parier sur le mauvais robot en plus. Donc à chaque fois, hein, à chaque fois, vraiment, à chaque fois, ils essayent, mais à chaque fois ça échoue. Donc ils ont un peu de mal, et du coup pour se rattraper, le boss va leur proposer un coup. Qui va effacer leur ardoise, qui sera de passer une cargaison, c'est pas trop quoi, à l'aéroport. Eux, c'est un peu des flics à la 70s, c'est des flics de la belle époque, donc quand avant on faisait ça à la main, quoi. Maintenant tout se fait sur internet, alors ils se plaignent que maintenant les plus grands truands c'est des hackers russes qui se font des milliards à quand des comptes PayPal. Eux, ils sont un peu en mode tradition, quoi, à la film un peu 70s, quoi. Et maintenant, avant, ils avaient l'habitude de pouvoir faire passer des trucs à l'aéroport facilement, c'était à la cool. Sauf que maintenant, il y a le meilleur agent, le meilleur flic des douanes que l'histoire des flics des douanes ait jamais connu. Est arrivé, et depuis c'est très très compliqué de faire passer quoi que ce soit.
Sacrée menace.
Une menace, la menace de ce comics, qui est un mignon petit beagle, un mignon petit beagle qui s'appelle Bretzel,
et qui a été choisi pour aller sur la cover du TPB d'ailleurs.
Voilà, qui fait la une de la cover du TP. Et donc ils vont essayer de trouver des machinations pour se rapprocher de ce Bretzel et de le mettre hors d'état de nuire pour pouvoir faire passer la fameuse marchandise tranquillement. Voilà un petit peu l'histoire.
Ah, c'est fun.
C'est très 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 drôle, c'est vraiment excellent. Pour ceux qui ont aimé Superior Foes, c'est le même type d'humour, des mecs qui essaient de faire des blagues mais qui tombent un peu à l'eau, des mecs qui sont complètement en décalage avec leur époque, des vrais salauds mais en même temps un petit peu attachants, pas trop mais un petit peu, puisqu'on va s'intéresser un petit peu au passé de ces deux flics, donc ça, on va en apprendre plus sur comment ils ont fait pour devenir, enfin comment ils ont fini Flic Ripou finalement, quelles étaient leurs ambitions dans la vie, des ambitions bien, euh, pas très très élevés, on va dire. Mais du coup ces personnages ont une vraie personnalité bien traitée, voilà, on en apprend pas mal sur eux, donc c'est vraiment un régal de les suivre. Et puis cette galerie de personnages excellente, donc le fameux boss qui est un psychopathe de malade, leur pote aussi qui est producteur de cinéma, qui a plusieurs fois optionné leurs histoires vraies de flics, ils ont pu se faire un peu de thunes comme ça, qui est aussi un fou, et qui a un regard, Steve Lieber le dessine avec un regard Donovan. Il est dans le premier numéro, tu l'as rencontré?
Oui, non, je me souviens très bien, il m'avait fait marrer quand même.
Il a un regard complètement fou, il fait trop peur. Voilà, vous voulez vraiment vous poiler et avoir une histoire de flic ripou, d'enquête, de magouille, avec une ambiance un peu à la... Il y a un peu de Tarantino quand même. Plutôt du Tarantino à la Reservoir Dogs, plutôt que ces westerns ou ces autres trucs.
Oui, avec beaucoup de dialogues et beaucoup d'humour dans les,
voilà,
dans les dialogues. Et dans les situations aussi, parfois.
Ouais. Il y a quand même ça dans les dialogues. Pour moi, c'est vraiment excellent. Je l'attendais avec impatience, cette série, et j'attendais surtout le TP qui a mis un petit peu de temps à sortir, qui rassemble les 4 premiers numéros, d'ailleurs. Dont le premier, quand même, je crois, est double, il me semble.
Oui,
au final, ça fait un TP qui est...
Il me semble. Et
qui est plutôt pas mal, pour seulement $10. Donc,
et si je dis pas de bêtises, je crois que le numéro 5 sortait cette semaine en même temps.
Bah oui, oui.
La technique à l'Image.
Ils font les choses bien.
La technique à l'Image. Il y a Alex Eran qui demande s'il y a un éditeur VF prévu pour The Fix. Pour l'instant, aucune info.
Pour l'instant, non. C'est un peu trop tôt.
Il n'y a eu qu'un seul tome. Après, Nick Spencer, ses derniers titres indés marquants, leur publication n'a pas été très réussie en français.
C'était un tout petit éditeur qui avait publié Morning Glories.
C'était chez Atlantic BD. Qui a laissé mourir le titre, on n'a aucune info pour la suite. C'est vraiment dommage parce que c'est un titre très riche.
Ça fait 4 ans avec le...
qui a beaucoup de. Qui parfois a des grandes pauses, mais qui continue d'avoir une histoire complètement folle. Après, à voir comment le titre est perçu, s'il fonctionne bien, mais de toute façon maintenant tous les gros titres sont quasiment optionnés en France, qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas, donc ce sera à suivre.
Ils seront quand même optionnés. Après, est-ce que ça sortira, on sait pas, mais Bedlam était sorti chez Humano Comics. Donc peut-être chez Humano. En tout cas, ça mérite clairement une sortie française. C'est vraiment très 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 bon.
Mais ça fera partie des titres où le traducteur il aura du boulot quand même pour parce que je me souviens que il y a beaucoup d'humour dans les dialogues et voilà, il faut réussir à retranscrire ce dynamisme en français. C'est du boulot quoi.
Il y a quand même un peu de Quantum et Woody aussi, hein, quand même.
Dans l'esprit, avec les deux personnages.
Dans l'esprit dysfonctionnel. J'en connais un qui a fait un très très bon travail, je crois, sur ce titre.
Qui serait très très bon. Qui serait très bon, tout à fait. Donc, ça conclut notre partie indé. Alors voilà, on n'a pas eu le temps de lire grand chose en indé. On va vous parler par contre des sorties trade. On va commencer par Dark Horse avec le volume 3 de la série Harrow County qui sort donc en TP, donc la série de Cullen Bunn, la série d'horreur. Il y a une très belle librairie édition de The Massive, Ninth Wave, qui vient de sortir, qui est à $25, donc la série de Brian Wood. Après, chez IDW, il y a des reliés sur les Tortues Ninja, la version plutôt dessin animé, TMNT Adventures, qui sort, qui est à 20€. Et il y a le TP de Three Devils, qui est un one-shot écrit par Bo Hampton et dessiné par Bo Hampton. Un peu de fiction, un peu fofolle. Après, nous avons chez Image Comics, dont on parlait, donc The Fix, qui est à 10€ pour le premier tome. Nous avons le premier tome de la série Mirror, Mirror the Mountain, qui est la série de Marios, avec au dessin Wei Lim.
C'était un peu spin-off de The Island, non?
Spin-off de Eight House, je crois. Il y avait eu deux concepts un peu bizarres. Il y avait Eight House et Island en même temps. Et The Mirror, ouais, c'est un des titres qui a le mieux marché. Alors, il bénéficie.
Eight House, je crois que ça ne sort plus.
Ouais, c'est Dead in the Water. Mais Mirror était assez impressionnant graphiquement. Je sais que j'ai souvent bugué un peu sur les pages du comic, c'est vraiment très beau. Par contre, j'avais été complètement perdu par ma lecture du premier numéro, donc peut-être qu'en trade, ça passera mieux. Très bon trade qui sort aussi cette semaine, la série Violent, d'Ed Brisson, dont le premier tome sort au tarif de 10€. Nous avons également, alors ça c'est la grosse sortie de la semaine aux États-Unis, bien sûr le tome 26 de Walking Dead. C'est un tome qui va paraître en français très prochainement. Il y a très peu de décalage maintenant avec la sortie américaine, puisqu'il débarque début octobre. Donc voilà, il y a juste 15 jours d'écart, c'est assez incroyable. Côté Boom, chez Boom il y a du Power Rangers, la fameuse série dont on a beaucoup parlé, petite pensée à Kiwi Kid qui est un grand adorateur, et puis à Jonath aussi qui collectionne toutes les figurines de Power Rangers depuis 1990. Donc c'est le premier TP qui comprend pour 20€ le premier arc, et donc c'est l'histoire du Power Ranger vert. Nous avons aussi la mini-série Over the Garden Wall qui est sortie pour 20€. Voilà. Et un hardcover très joli pour la mini-série Toil and Trouble que j'avais beaucoup apprécié, qui réimagine Macbeth en version comics avec Margaret Scott au scénario et Kelly Matthews et Nicole Matthews. Enfin, Margaret Scott qui est aussi. C'est Kelly et Nicole Matthews au dessin, c'est super beau, c'est super intéressant, et voilà, ils ont fait du coup un bel écrin pour cette mini-série. Et on va terminer avec Valiant, qui nous sort le quatrième relié de la série Ninjak. Donc voilà, pour les personnes qui consomment Valiant en trade paperback, voilà, pour 15€, vous avez le volume 4, Siege of King's Castle. Voilà, donc cette petite sélection des TP indépendants. On va passer maintenant, alors là, oui, à la partie Marvel, où Flo m'a inondé de lecture sur le conducteur. Je crois qu'il savait plus où s'arrêter. Il s'était mis en tête de lire tous les tie-ins de Civil War 2. J'ai dit, mais non, arrête.
Après, j'ai vu que Civil War 2 a été décalé, du coup, j'ai tout lâché.
Voilà, on va faire une petite.
J'en avais 50 lectures et j'ai tout à moi.
On va se permettre de faire une petite parenthèse. Donc voilà, il n'y a pas de weekly news en ce moment. Donc c'était quand même un peu la méga news que Marvel n'a pas trop commenté encore pour l'instant. Civil War 2, ce fameux événement qui pour l'instant, moi, j'ai passé un bon moment à lire la série principale. Il y a certaines choses qu'on peut lui reprocher, mais bon, il y a quand même des choses assez intéressantes. Mais alors, ils vont nous refaire le coup à la Secret Wars, c'est-à-dire que les numéros sont repoussés ad vitam aeternam avec une conclusion de Civil War 2 qui maintenant est prévue pour fin décembre. Si ça c'est pas honteux. Une conclusion fin décembre, alors que tous les titres post-Civil War 2 qu'on nous a vantés avec le nouveau Marvel Now commencent dès le mois d'octobre. Donc là c'est à nouveau le même syndrome que lors de Secret Wars. Voilà. Bon. Alors il y a. Ça m'a quand même fait un peu suer quand même. Parce que je dois dire que d'un point de vue. De l'intérêt pour Civil War 2 et puis de même d'un point de vue business par rapport aux commandes, par rapport à l'intérêt des clients sur cet event, ça va faire un peu tomber quand même le truc, la sauce. C'est un peu dommage. Alors les raisons sont plus ou moins connues, hein, si je dis pas de bêtises Flo, mais c'est le dessinateur qui a eu un bébé il y a pas longtemps. Et du coup, il met un petit peu de temps à rendre ses planches. Et bon, après, c'est tant mieux pour lui.
Je crois que sa femme s'est cassé les jambes.
En plus.
Oui.
Ah, bravo.
Elle a eu un accident, un truc comme ça.
Donc enfin, oui, bon, donc effectivement,
un bébé, ça se prévoit quelques mois à l'avance.
Hein, un bébé, tout à fait, plus une femme avec les jambes cassées. Alors là, là, il peut plus dessiner. On peut comprendre, mais voilà. Donc Marvel a décidé de conserver le même dessinateur malgré tout pour terminer sa série. Alors ce qui est un bien, parce que dans le sens où quand la lecture sera faite en trade, c'est quand même plus agréable d'avoir une série. Voilà. Moi j'aime bien les crossovers qui ont le même dessinateur du début à la fin, ça donne une unité qui est plutôt sympathique. Mais là, d'un point de vue économique, business, je me demande s'il aurait pas fallu qu'il fasse appel à une autre star peut-être pour le remplacer et terminer, parce que ça va carrément perdre le momentum, quoi. Donc voilà, donc on digresse, mais grosse déception pour Civil War 2. Donc comme
fin décembre quand même. Hein.
Ouais, fin décembre, hein. Sachant
si
qu'il y avait
si c'est pas décalé à janvier,
Secret Wars, tout à fait. Il y avait eu plusieurs décalages et c'était
presque un an ce truc.
Ouais, c'était un peu n'importe quoi. Surtout que Bendis avait quand même communiqué sur le fait qu'il rajoutait un numéro parce que 7 ça ne suffisait pas et qu'il avait l'idée géniale pour terminer encore mieux son event, donc il avait rajouté un numéro 8 et...
comme Jonathan Hickman pour Secret Wars.
Voilà, donc ça sent un peu le pâté. Bon, alors donc Flo n'a lu aucun Marvel, je vais faire mon petit monologue, je vais aller assez vite par contre. J'ai fait 3 lectures Marvel, sympa sans plus, il n'y a pas de gros coup de cœur cette semaine sur les titres que j'ai choisis. Je vais commencer avec le Spider-Man numéro 8, écrit par Bendis et dessiné par Nico Leon. Alors là, ce numéro, franchement, c'est du remplissage. Il y a 10 pages de dialogue entre Miles Morales et Jessica Jones et Luke Cage que j'ai vraiment trouvé... chiante comme la mort, et pourtant je suis quand même assez bon public avec les dialogues de Bendis, mais là ça le fait pas du tout. Donc ça c'était vraiment du remplissage. Par contre au niveau de l'intrigue, il y a quand même des trucs sympas, les réflexions des jeunes Miles Morales, Nova et Miss Marvel par rapport à ce qui se passe dans Civil War 2, c'est plutôt bien amené. Il y a l'histoire qui se passe en parallèle de différents événements de Civil War 2. Ça permet d'éclairer certaines scènes qu'on a pu voir dans la série principale. Ça, c'est plutôt bien fait. Après, il n'y a pas vraiment de mérite, hein, puisque c'est Bendis qui écrit aussi l'événement principal. Mais ça permet d'expliciter certains personnages, certaines positions. Donc, il y a quelques trucs qui sont sympas. Graphiquement, c'est plutôt propre. Mais franchement, ce numéro, il aurait pu faire ça en 5 pages. Donc, c'est un peu du foutage de gueule. C'est un peu du méga gros remplissage. Donc, tout petit check-it pour ce Spider-Man numéro 8 tagué Civil War 2. J'espère que ça va décoller dans le prochain. Alors, après, on va passer à un autre tie-in à Civil War 2 qui, lui, est un peu plus sympathique. C'est A-Force numéro 9. Alors c'est écrit par Kelly Thompson avec au dessin Paolo Siqueira. Là l'intrigue je la trouve assez cool. J'aime bien cette équipe d'A-Force, j'avais bien aimé les deux premiers arcs. Là cet arc ça tourne autour de Nico Minoru, donc une des anciennes Runaways, qui a été accusée par ce fameux Ulysse dans une vision de devenir une future assassin, c'est-à-dire qu'elle va commettre un crime, tuer quelqu'un, et du coup bah, les Captain Marvel essaye de la convaincre de rester auprès d'elle pour qu'elle puisse se contrôler, et puis bien sûr ça va partir en couille. Nico Minoru finit par disparaître, elle utilise ses sorts magiques, elle se retrouve un petit peu à l'écart dans une petite ville américaine qui, il se trouve, est en proie à une sorte d'attaque démoniaque avec des gens qui sont transformés en créatures insectoïdes. Et là où c'est plutôt cool, c'est qu'en fait Nico va faire équipe avec Elsa Bloodstone, donc qui est un personnage qu'on a pu voir dans la série Next Wave, et qui est vraiment cool, quoi. C'est la nana badass qui arrête pas de faire des jurons tout le temps, et toutes les deux vont faire un team-up pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette ville qui est envahie de monstres. Et petit à petit tout ça va revenir vers cette fameuse vision de Ulysse, puisqu'on va se rendre compte que la personne que va tuer Nico dans la vision se trouve dans cette ville. Et donc dans ce numéro, c'est y a Captain Marvel qui les a retrouvés, ça va être un petit peu la confrontation, puis at first they fight et then they fuck, donc non they fuck pas, mais en tout cas elles s'associent et elles vont s'en prendre à la menace. C'est fun, il y a pas mal de d'humour, j'aime bien la dynamique entre les personnages. Voilà, c'est sympa, c'est frais, c'est joli. On va dire que ça fait partie des bons tie-in à Civil War 2. Un bon check-it pour ce numéro 9 de A-Force. Donc Uncanny Avengers numéro 14 de Gary Duggan est dessiné par Ryan Stegman. Donc c'est un arc dans lequel maintenant Cable a décidé avec les différents mutants de la Unity Squad de faire des petites missions en Black Ops pour essayer de trouver un remède aux brumes tératogènes, et donc il se retrouve à faire équipe avec des personnages plutôt sombre, puisqu'ils vont être avec Sebastian Shaw et Toad, donc deux méchants des X-Men qui vont les aider à trouver justement des éléments pour essayer de trouver un remède à cette maladie qu'ont les mutants à cause des brumes tératogènes. Donc dans ce numéro, ça va être Captain America qui va découvrir que les mutants de son équipe sont en train de faire un peu n'importe quoi dans leur coin. Ça va être Deadpool qui essaye de couvrir pour ses potes mutants et pour son pote Cable, et qui finalement ça va bien se passer. Ça va être de la bonne grosse baston entre Cap Hail Hydra et justement les mutants comme Sebastian Shaw et compagnie. Moi j'aime bien Uncanny Avengers en ce moment, c'est très rythmé, il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de liens qui sont faits avec les différentes séries, comme par exemple le Captain America de Nick Spencer. On voit que Gary Duggan, il bosse bien sa continuité, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, ça amène aussi probablement aux prémices du futur crossover IVX, hein, puisque les tensions entre les Inhumains et les X-Men sont de plus en plus fortes. Après au niveau des dessins de Ryan Stegman, ça plaît pas à tout le monde, hein. Je vois que Jonath trouve que c'est très très moche. Moi j'aime bien son style, c'est cartoony, c'est détaillé, il y a des scènes de baston que je trouve assez réussies. Moi je trouve ça plutôt réussi. Donc c'est un... Ça n'a pas vraiment de lien avec Civil War 2 pour l'instant, donc le tie-in n'est pas vraiment adapté. Mais par contre, alors on va dire qu'il y a un petit lien, c'est qu'on a, on va avoir les suites des conséquences de l'enterrement de Banner. Voilà, donc parce que l'histoire de Banner n'est peut-être pas complètement terminée, et ça peut amener à des choses assez fun, donc à voir par la suite comment ça va être traité par Gary Duggan, mais en tout cas il y a du potentiel pour avoir des choses un peu what the fuck. Donc c'est de mes lectures Marvel cette semaine, c'était celle qui m'a le plus plu. Ça envoie du pâté, donc un bon petit bail pour Uncanny Avengers numéro 14. Voilà, et ça conclut nos reviews Marvel. Du coup, maintenant, on va terminer avec les reliés, les TP de la semaine qui sont sortis justement chez Marvel Comics. Plusieurs choses. Nous avons le Daredevil Back in Black. Donc, c'est le volume 2 de la nouvelle série Daredevil, celle de Charles Soule, qui sort en TP. Donc, il est à 16€. Nous avons également du Uncanny Avengers Unity, donc je parlais de la série de Gary Duggan, là il y a le volume 2 qui sort, qui est à 18€ également. Pour des choses un peu plus anciennes, nous avons le X-Men Origins TP de Gambit qui sort, qui est à 20€ et qui comprend plusieurs numéros, dont le X-Men Origins Gambit, puis des numéros qui mettent en avant ce mutant qui aura peut-être un film très prochainement. La sortie du TP devait coïncider avec la sortie du film, mais pour l'instant le film est tombé dans le développement L de la Fox. Et côté sortie également, dans les choses un petit peu plus anciennes, nous avons l'intégrale de Punisher War Journal par Carl Potts et Jim Lee, donc du Punisher dessiné par Jim Lee, un truc bien badass, graphiquement plutôt sympathique, qui a pas mal inspiré le jeu vidéo de Capcom qui était sorti dans les années 90 en arcade et qui était une tuerie. Et voilà, vous, vous retrouverez un peu le style graphique et l'ambiance de ce jeu vidéo dans cette série. Donc ça comprend les épisodes 1 à 19 de Punisher War Journal, plus le Punisher Annual numéro 2, le tout pour 40€. Et enfin, nous avons également la sortie de Max Ride, cette série comics basée sur un univers de romans young adult. Ça s'appelle First Flight et c'est le premier TP. Il est à 20€. Voilà, après je ne vous parle pas des modernes Masterworks parce que ça coûte trop cher, mais en tout cas vous avez le numéro 18 des Fantastic Four qui sort et c'est 75€ pour les collectionneurs. Et donc ça conclut notre partie Marvel. Et notre émission, voilà. Donc, qu'en as-tu pensé, Flo, de cette émission? On a eu droit à notre problème technique, malheureusement.
Oh, tu as présenté avec avec brio. Avec brio, je t'ai senti un peu hésitant au début, et après c'est parti comme sur des roulettes.
C'était un peu chaud. Je suis vraiment désolé qu'on ait eu ce petit problème technique. J'ai l'impression que c'est la fenêtre de chat de Mixler qui a buggé et qui du coup a fait planter mon application. Donc voilà. Donc c'est notre ami Steve qui va malheureusement devoir raccrocher les morceaux de ce podcast, podcast collector puisque présenté par moi-même. Et donc c'était un plaisir de vous avoir sur le chat. Je vois que les discussions ont été aussi très très animées. Donc c'était vraiment très très cool. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi, Flo, ce soir pour parler de tous ces bons comics.
Mais de même, un grand plaisir. Quand on se voit pas en vrai, on se voit.
Voilà, on se voit même sur les ondes. C'est magnifique. C'est une bromance. C'est magnifique. Et alors petite. Je vais terminer avec deux petites actus sympathiques. Samedi, partout en France, dans les comic shops et puis dans les librairies, c'est le Batman Day. Alors Batman Day, allez pas me demander pourquoi ils ont choisi cette journée pour faire le Batman Day. Ça n'a rien à voir avec la première apparition de Batman et autres. Voilà, ils ont dit on va faire le Batman Day mi-septembre. Ok. Donc le 17 septembre, vous avez le Batman Day. Il y a Urban Comics qui a édité des petits fascicules. Hommage à Batman, donc là pour l'occasion c'est sur la série animée des années 90 en version comics. Donc des petits fascicules qui ont été envoyés à vos différents libraires. Alors malheureusement très très peu d'exemplaires, hein. C'est à dire que nous on est un comic shop spécialisé, on n'en a reçu que 30. Alors, c'est génial. Ça risque de partir très très vite, mais voilà, si vous voulez ce petit fascicule collector, vous le trouverez peut-être dans votre librairie à côté de chez vous. À noter que dans les librairies spécialisées qui font aussi de la VO, DC a édité un numéro aussi pour l'occasion pour le Batman Day que les comic shops pouvaient acheter et qui sera offert, nous à la boutique par exemple, il sera offert pour n'importe quel achat DC Comics en boutique, c'est-à-dire que ce soit du comics, du toys ou du poster ou autre, vous repartirez avec un petit fascicule VO dans la limite des stocks disponibles et qui réimprime en fait le premier numéro de Batman Rebirth, donc c'est quelque chose d'assez récent et c'est plutôt sympathique pour découvrir la tonalité de la nouvelle série Batman par Tom King. Donc voilà, donc c'est le Batman Day, quoi d'autre ben voilà, c'est normalement tout devrait revenir à la normale la semaine prochaine, donc jeudi prochain avec Steve à la baguette de l'émission. Et voilà, ben je vous fais des gros bisous et à très bientôt, bonne lecture comics, et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire sur le site Comic City vos reviews, vos avis sur les titres de cette semaine. Et si vous avez envie de nous contacter, de contacter votre équipe de podcasteurs favoris, vous pouvez utiliser le mail podcast@comiccity.fr. Vous avez également Twitter, vous avez Facebook, et voilà. Donc le mot de la fin, Flo.
Véranda.
Véranda, c'est parfait. Bah je ne peux pas dire mieux. Donc on va conclure là-dessus. Et une fois n'est pas coutume, bah il n'y aura pas de bonus après l'émission parce que je suis un peu une quiche avec Mixler, donc j'ai peur de faire des bêtises. Donc on va laisser la primeur des bonus à notre ami Steve. De toute façon, sinon j'allais vous repasser la musique de Star Wars chantée par C3PO, donc vous n'y perdez rien au change. Donc passez une bonne soirée, bonne nuit à tout le monde, bonne nuit Flo, et à très bientôt.
À très bientôt, ciao.
Ciao, ciao. Now the time for selfishness, meaning right now better be out of Cooper, can't you? So you put on a fancy dress and you're heading up to Wrecking Brisbane with you.